Chapitre 42. Mendiant et serviteur. Pareil aux tempêtes majeures, réguliers dans leur venue et cependant toujours inattendus. Le mot désolation est employé deux fois en référence à leurs apparitions. Voir pages 57, 59 et 64 des Contes au coin du feu. J'ai pris ma décision, déclara Shallan. Jasna leva les yeux de ses recherches. Lors d'un moment inhabituel de déférence, elle écarta ses livres et s'assit en tournant le dos au voile pour regarder Shallan. Très bien. Ce que vous avez fait était à la fois légal et juste, au sens strict des termes, dit Shallan. Mais ce n'était pas moral, et certainement pas éthique. Donc la moralité et la légalité sont distinctes ? Presque toutes les philosophies s'accordent sur ce point. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Shallan hésita. Oui, on peut être moral sans se conformer à la loi, et immoral tout en s'y conformant. Vous disiez aussi que ce que j'ai fait était juste, mais pas moral. La distinction entre ces deux points semble moins facile à définir. Une action peut être juste, dit Shallan. Elle est simplement quelque chose qu'on fait et envisage sans considération de l'intention. Tuer quatre hommes pour se défendre, c'est juste. Mais pas moral ? La moralité s'applique à votre intention et au contexte plus large de la situation. Partir à la recherche d'hommes à tuer est un acte immoral, Jasna, indépendamment du résultat final. Jasna tapota d'un ongle le dessus de son bureau. Elle portait son gant, sous lequel saillaient les gemmes du spiricante cassé. Il s'était écoulé deux semaines. Elle avait bien dû découvrir qu'il ne fonctionnait pas. Comment pouvait-elle rester si calme ? Cherchait-elle à le réparer en secret ? Peut-être craignait-elle, si elle révélait qu'il était cassé, de perdre en puissance politique. Où avait-elle compris qu'on avait échangé le sien contre un autre spiricante ? Se pouvait-il, contre toute probabilité, que Jasna n'ait tout simplement pas essayé de s'en servir ? Shallan devait partir sans trop attendre. Mais si elle partait avant que l'échange ne soit découvert, elle courait le risque que Jasna naissait son spiricante, juste après sa disparition, ce qui attirerait aussitôt les soupçons. Cette attente nerveuse poussait Shallan au bord de la folie. Enfin, Jasna hocha la tête, puis revint à ses recherches. « Vous n'avez rien à dire ?» demanda Shallan. « Je viens de vous accuser de meurtre. »« Non, » dit Jasna. « Le meurtre est une définition légale. Vous m'avez dit que j'avais tué d'une façon contraire à l'éthique. »«
Vous pensez que je me trompe, je suppose ?»«
Vous vous trompez, » répondit Jasna. « Mais j'accepte que vous croyez ce que vous dites et que ce soit dicté par une pensée rationnelle. J'ai parcouru vos notes et je crois que vous comprenez les diverses philosophies. Dans certains cas, j'estime que vous en avez fait une interprétation très perspicace. La leçon a été instructive. » Elle ouvrit son livre.
« Alors c'est tout ?»«
Bien sûr que non, » dit Jasna. « Nous étudierons la philosophie plus en profondeur à l'avenir. » Pour l'heure, je suis satisfaite que vous ayez acquis des bases solides sur ce sujet.
Mais je persiste à penser que vous avez eu tort, qu'il existe une vérité absolue quelque part.
Oui, dit Jasna. Et il vous a fallu vous débattre pendant deux semaines pour parvenir à cette conclusion. Jasna leva les yeux et croisa le regard de Shallan. Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas ?
Non.
Et vous vous interrogez toujours ?
Oui.
C'est suffisant. Jasna plissa légèrement les yeux et un sourire consolateur apparut sur ses lèvres. Si ça peut vous aider à vous arranger avec vos sentiments, mon enfant, comprenez que je cherchais vraiment à faire le bien. Je me demande parfois si je ne devrais pas en accomplir davantage avec mon spiricante. Elle reprit sa lecture. Vous êtes libre pour le restant de la journée. Shallan cligna des yeux.
« Quoi ?»«
Libre, » répéta Jasna. « Vous pouvez partir. Faites ce qui vous chante. Vous passerez ce temps à dessiner des mendiants et des serviteurs, j'imagine. Mais vous avez le choix. Filez.
Entendu, clarissime. Merci.
Jasna la chassa d'un geste et Shalan s'empara de sa pochette à dessin et quitta précipitamment l'alcôve. Elle n'avait pas disposé de temps libre depuis le jour où elle était sortie dessiner seule dans le jardin. Ce pourquoi on l'avait gentiment réprimandée. Jasna l'avait laissée dans ses appartements pour se reposer, pas pour sortir dessiner. Shalan attendit impatiemment, tandis que les porteurs parches descendaient son ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée du voile, puis se précipita dans l'immense vestibule central. Une longue marche plus tard, elle approcha des quartiers des invités et salua les maîtres serviteurs qui s'y trouvaient. Moitié garde, moitié portier, ils surveillaient les entrées et sorties. Elle utilisa son épaisse clé de cuivre pour déverrouiller la porte des appartements de Jasna, puis se glissa à l'intérieur et ferma derrière elle. Le petit salon, meublé d'un tapis et de deux chaises près du foyer, était éclairé par des topazes. Sur la table reposait toujours une coupe à moitié pleine de vin orange datant des recherches de Jasna la nuit précédente, ainsi que quelques miettes de pain sur une assiette. Shalan se précipita vers sa propre chambre, puis ferma la porte et sortit le spiricante de sa sage bourse. L'éclat chaud des gemmes baigna son visage de lumière rouge et blanche. Elles étaient assez larges et par conséquent assez lumineuses pour qu'il soit difficile de les regarder en face. Chacune devait valoir une dizaine ou une vingtaine de bromes. Elle avait été contrainte de les cacher à l'extérieur lors de la récente tempête majeure pour les infuser, ce qui avait constitué une source d'anxiété en soi. Elle inspira profondément, puis s'agenouilla et tira une petite baguette de bois de sous le lit. Une semaine et demie d'entraînement, et elle n'avait toujours pas réussi à obliger le spiricante à faire quoi que ce soit. Elle avait tenté de tapoter les gemmes, de les tourner, de secouer la main, de faire jouer ses doigts en imitant précisément le geste de Jasna. Elle avait étudié chacune des images qu'elle avait dessinées du processus. Elle avait tenté de parler, de se concentrer et même de supplier. Cependant, elle avait trouvé la veille, dans un livre, un conseil qui semblait utile. Il affirmait que chantonner, rendez-vous compte, pouvait rendre un spiricante plus efficace. Ce n'était qu'une référence en passant, mais c'était bien plus qu'elle n'en avait trouvé partout ailleurs. Elle s'assit sur son lit et s'obligea à se concentrer. Elle ferma les yeux, tenant le bâton, et l'imagina se transformer en quartz. Puis elle se mit à chantonner. Rien ne se produisit. Elle continua malgré tout à fredonner, essayant différentes notes, s'appliquant de toutes ses forces. Elle resta concentrée une bonne heure sur la tâche, mais son esprit finit par vagabonder. Une nouvelle inquiétude se mit à la ronger. Jasna était l'une des érudites les plus brillantes et les plus perspicaces au monde. Elle avait placé le spiricante là où il pouvait être pris. Avait-elle intentionnellement dupé Shalan à l'aide d'un faux? Ça semblait nécessiter de se donner énormément de mal. Pourquoi ne pas se contenter de refermer le piège en dévoilant Shalan comme une voleuse? Le fait qu'elle ne parvienne pas à faire fonctionner le spiricante l'a poussée à chercher des explications repoussant les limites du plausible. Elle cessa de chantonner et ouvrit les yeux. Le bâton n'avait pas changé. « Merci pour le conseil », songea-t-elle en le reposant avec un soupir. Elle en avait tant espéré. Elle se rallongea sur son lit pour se reposer, levant les yeux vers le plafond de pierre brune qui était taillé, comme le reste du conclave, directement à même la montagne. Ici, on avait volontairement laissé la pierre rêche, évoquant le toit d'une grotte. Le résultat était très beau et possédait une subtilité qu'elle n'avait encore jamais remarquée. Les couleurs et les contours de la pierre ondulaient comme un étang perturbé. Elle prit une feuille dans sa pochette à dessin et se mit à esquisser les motifs de la pierre. Un croquis pour se calmer, puis elle reviendrait au spiricante. Peut-être devrait-elle de nouveau l'essayer sur son autre main. Elle ne pouvait pas capturer les couleurs des strates, pas au crayon de charbon. Mais elle pouvait représenter la manière fascinante dont les strates s'entremêlaient. Comme une œuvre d'art, un tailleur de pierre avait-il intentionnellement sculpté ce plafond pour façonner cette subtile création? Ou s'agissait-il d'un accident de la nature?
Elle sourit en imaginant un tailleur de pierre surchargé de travail, remarquant le splendide grain de la roche et décidant de former un motif en forme de vague pour son propre émerveillement et son propre sens de la beauté. Qu'êtes-vous ? Shallan se redressa en poussant un cri aigu et son carnet de croquis tomba de son giron. Quelqu'un avait murmuré ces mots. Elle les avait entendus distinctement. « Qui est là ? » demanda-t-elle. Silence. « Qui est là ? » répétait-elle plus fort, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose résonna devant sa porte, en provenance du salon. Shallan sursauta et cacha sous un oreiller la main portant le spiricante, tandis que la porte s'entr'ouvrait, dévoilant une servante sombre-iris du palais, à la figure ridée dans son uniforme orange et blanc.
« Je suis désolée !» s'exclama celle-ci. « Je ne savais pas que vous étiez là, Clarissime !»
Elle s'inclina très bas. Une servante du palais, venue nettoyer la chambre, comme chaque jour. Concentrée sur sa méditation, Shallan ne l'avait pas entendue entrer.
« Pourquoi m'avez-vous parlé ?»«
Parler, Clarissime ?»«
Vous... »
Non. La voix n'avait été qu'un murmure, et elle provenait très distinctement de l'intérieur de la chambre de Shallan. Ça n'avait pas pu être la servante. Elle frissonna et regarda autour d'elle. Mais c'était idiot. La chambre minuscule était facile à inspecter. Il n'y avait pas de néantifère caché dans les coins ni sous son lit. Dans ce cas, qu'avait-elle entendu ? Les bruits que faisait cette femme en nettoyant de toute évidence. L'esprit de Shallan avait simplement interprété ces bruits ordinaires comme des mots. Se forçant à se détendre, Shallan étudia le salon derrière la servante. Celle-ci avait enlevé le verre de vin et les miettes de pain. Un balai était appuyé contre le mur. Par ailleurs, la porte de Jasna était entr'ouverte.
« Êtes-vous allée dans la chambre de la clarissime Jasna ?»
demanda Shallan.
« Oui, clarissime, » répondit la femme. « Pour nettoyer le bureau, faire le lit. » « La clarissime Jasna n'aime pas qu'on entre dans sa chambre. On a demandé aux servantes de ne pas la nettoyer. »
Le roi avait assuré que ses servantes étaient choisies avec soin. Et il n'y avait jamais eu de problème de vol. Mais Jasna insistait malgré tout pour qu'aucune n'entre dans sa chambre. La femme blêmit.
« Je suis désolée, clarissime, je ne savais pas. On ne me l'avait pas dit. »«
Chut, ne vous en faites pas, » dit Shallan. « Vous n'aurez qu'à lui dire ce que vous avez fait. Elle remarque toujours quand on a déplacé ses affaires. Il vaudra mieux pour vous que vous alliez le lui expliquer. »«
Oui, clarissime. »
La femme s'inclina de nouveau.
« En fait, » dit Shallan, qu'une idée traversait soudain, « vous devriez y aller tout de suite. Inutile de remettre à plus tard. »
La vieille servante soupira.
« Oui, bien sûr, clarissime. »
Elle se retira. Quelques secondes plus tard, la porte extérieure se referma et se verrouilla. Shallan se leva d'un bond, sortit le spiricante et le replaça dans sa sage bourse. Elle se précipita à l'extérieur, le cœur battant à tout rompre, ayant oublié cette voix étrange à présent qu'elle saisissait l'occasion de regarder dans la chambre de Jasna. Il était peu probable que Shallan découvre quoi que ce soit d'utile au sujet du spiricante, mais elle ne pouvait pas laisser passer l'occasion. Pas alors qu'elle pouvait accuser la servante d'avoir déplacé des choses. Elle n'éprouva qu'un soupçon de culpabilité. Elle avait déjà volé Jasna. Fouiller sa chambre n'était rien en comparaison. La chambre était plus grande que celle de Shallan, bien que l'inévitable absence de fenêtre la fasse paraître exiguë. Le lit de Jasna, un monstre à quatre colonnes, occupait la moitié de l'espace. Le coffre se trouvait contre le mur du fond, près de la coiffeuse où Shallan avait volé le spiricante. En dehors d'une commode, la pièce ne contenait rien d'autre que le bureau, sur le côté gauche duquel s'empilaient les livres. Shallan n'avait jamais l'occasion d'inspecter les carnets de Jasna. Se pouvait-il qu'elle ait pris des notes au sujet du spiricante ? Shallan s'assit au bureau, ouvrit précipitamment le tiroir du haut et fouilla parmi les pinceaux, crayons de charbon et feuilles de papier. Tout s'était soigneusement rangé et le papier était vierge. Le tiroir du bas à droite contenait de l'encre et des carnets vides. Le tiroir du bas à gauche renfermait une petite collection de livres de référence, ce qui laissait les carnets posés sur le bureau. Jasna devait conserver la majorité de ses carnets avec elle en travaillant.
Mais... oui.
Il en restait quelques-uns ici. Le cœur palpitant, Shallan rassembla les trois minces volumes et les posa devant elle. « Note sur Uri Tirou », annonçait le premier à l'intérieur. Le carnet était rempli, semblait-il, de citations et de notes sur divers livres qu'avait trouvé Jasna. Tous parlaient de cet endroit, Uri Tirou. Jasna l'avait mentionné à Kabzal. Shallan écarta ce carnet pour étudier le suivant, espérant y voir mentionné le Spirikant. Celui-ci aussi était rempli au maximum, mais il ne comportait aucun titre. Shallan le parcourut et lut quelques entrées. « Ceux de cendres et de flammes qui tuaient comme un essaim. Implacable face aux héros. » Noté chez Masli, page 337. Corroboré par Coldwin et Asava. Ils emportent la lumière, où qu'ils rôdent, peau brûlée. Kormchen, page 104. Inia, dans ses retranscriptions de contes populaires pour enfants, décrit les néantifères comme étant pareils aux tempêtes majeures, réguliers dans leur venue et cependant toujours inattendus. Le mot « désolation » est employé deux fois en référence à leurs apparitions. Voir pages 57, 59 et 64 des contes au coin du feu. Ils changeaient alors même que nous les combattions. Ils étaient tels des ombres, capables de se transformer comme danse la flamme. Ne les sous-estimez jamais à cause de ce que vous aurez vu en premier lieu. Se présente comme un fragment recueilli auprès de Talatine, un radieux de l'ordre de garde-pierre. La source, l'incarnation de Gouvlov, est généralement tenue pour fiable, bien que cet extrait provienne d'un fragment copié dans le poème du septième matin qui a été perdu. La liste se poursuivait ainsi. Des pages entières. Jasna l'avait formé à cette méthode de prise de notes. Une fois le carnet rempli, chaque élément serait de nouveau évalué pour jauger sa fiabilité et son utilité, puis copié dans d'autres carnets, plus précis. Songeuse, Shallan parcourut le dernier carnet. Il se concentrait sur Natanatan, les collines inconquises et les plaines brisées. Il réunissait des comptes rendus de découvertes par des chasseurs, des explorateurs ou des commerçants cherchant un passage fluvial vers la nouvelle Natanan. Des trois carnets, le plus gros se concentrait sur les néantifères. Encore les néantifères. Dans les régions plus rurales, bien des gens parlaient d'eux à mi-voix, ainsi que d'autres monstres des ténèbres. Les souffles rauques, les murmes-foudres, ou même les redoutés sprennes de la nuit. Des tutrices sévères avaient appris à Shallan que ce n'étaient que des superstitions, des inventions des radieux enfuis, qui recouraient à des histoires de monstres pour justifier leur domination de l'humanité. Les ardents enseignaient autre chose. Ils parlaient des radieux enfuis, alors appelés chevaliers radieux, combattant les néantifères lors de la guerre destinée à défendre Rochard. Selon ses enseignements, ce n'était qu'après avoir vaincu les néantifères et après le départ des héros que les radieux étaient tombés. Tous s'accordaient à dire que les néantifères avaient disparu. Invention ou ennemi vaincu de longue date, le résultat était le même. Shallan pouvait comprendre que certaines personnes, certains érudits même, croient que les néantifères existaient toujours et hantaient l'humanité. Mais Jasna la sceptique, Jasna qui niait l'existence du Tout-Puissant, cette femme pouvait-elle être assez tordue pour nier l'existence de Dieu, mais accepter celle d'ennemis mythologiques? On frappa à la porte extérieure. Shallan sursauta et leva la main vers sa poitrine. Elle s'empressa de replacer les carnets sur le bureau, dans le même ordre et la même orientation. Puis, troublée, elle se précipita vers la porte. Jasna ne frapperait pas, idiote, se dit-elle en déverrouillant et en entr'ouvrant la porte. Kabzal se tenait à l'extérieur. Le séduisant ardent Paliris lui tendit un panier. J'ai entendu dire que vous aviez une journée de congé. Il secoua le panier d'un air tentateur. Voulez-vous de la confiture ? Shallan se calma, puis jeta un coup d'œil en direction des appartements ouverts de Shallan. Il fallait vraiment qu'elle poursuive ses recherches. Elle se retourna vers Kabzal dans l'intention de décliner son offre, mais son regard tentateur l'arrêta. Cette esquisse de sourire sur son visage, cette posture détendue et bon enfant.
Si Shallan accompagnait Kabzal, peut-être pourrait-elle lui demander ce qu'il savait au sujet des spiricantes. Mais ce ne fut pas ce qui orienta sa décision. En réalité, elle avait besoin de se détendre. Elle était tellement à cran ces derniers temps, la cervelle farcie de philosophie, tous ses instants de loisir passés à essayer de faire fonctionner le spiricante. Quoi d'étonnant à ce qu'elle entende des voix.
« J'ai très envie de confiture, » déclara-t-elle.
« Confiture de baie franche, » annonça Kabzal en élevant le petit pot de verre. « C'est azéen. Leur légende affirme que ceux qui consomment ces baies ne disent plus que la vérité jusqu'au coucher de soleil suivant. » Shallan haussa un sourcil. Ils étaient assis sur des coussins au-dessus d'une couverture dans les jardins du conclave, non loin de l'endroit où elle avait effectué sa première tentative avec le spiricante. « Et c'est vrai ?»«
Pas franchement, » répondit Kabzal en ouvrant le pot.
« Les baies sont inoffensives. Mais les feuilles et les tiges de la plante, si on les brûle, dégagent une fumée qui rend la plupart des gens ivres et euphoriques. Il semblerait que certains peuples aient souvent recueilli les tiges pour faire du feu. Ils mangeaient les baies autour d'un feu de camp et passaient une soirée plutôt intéressante.
« C'est un miracle !» commença Shallan avant de se mordre la lèvre.
« Quoi donc ? » insista-t-il. Elle soupira. « C'est un miracle qu'on ne les ait pas appelés baies fertiles, compte tenu de... » Elle rougit. Il éclata de rire.
« Bien vu !»« Père des tempêtes !» dit-elle en rougissant encore davantage. « Je ne suis vraiment pas douée pour me montrer convenable. Tenez, donnez-moi un peu de cette confiture. »
Il sourit et lui tendit une tranche de pain où était étalée une confiture verte. Un parche aux yeux ternes, qu'il était allé chercher à l'intérieur du conclave, était assis par terre près d'un mur de schiste écorce, jouant les chaperons improvisés. C'était tellement étrange de se trouver dehors en compagnie d'un homme à l'âge proche du sien, avec un seul parche pour les escorter. C'était libérateur, grisant. À moins que ce ne soit simplement le soleil et le grand air.
Je ne suis pas non plus douée pour être érudite, dit-elle en fermant les yeux et en inspirant profondément. J'aime beaucoup trop l'extérieur.
Une grande partie des plus grandes érudites ont passé leur vie à voyager.
Et pour chacune d'entre elles, dit Shallan, il y en avait une centaine d'autres coincées dans des bibliothèques exiguës, ensevelies sous les livres.
Et qui n'auraient pas souhaité qu'il en soit autrement. La plupart des gens, ayant le goût de la recherche, préfèrent leur bibliothèque et leur coin exigu. Ça vous rend intrigante.
Elle ouvrit les yeux, lui sourit, puis prit une succulente bouchée de pain et de confiture. Ce pain thaïlène était tellement moelleux qu'il ressemblait à du gâteau. Donc, demanda-t-elle tandis qu'il mâchait sa bouchée, vous sentez-vous plus franc maintenant que vous avez mangé cette confiture ?
« Je suis un ardent, » dit-il. « C'est mon devoir et ma vocation de dire constamment la vérité. »«
Bien sûr, » dit-elle. « Moi aussi, je suis toujours franche. » Tellement remplie de franchise, en réalité, qu'elle fait parfois ressortir des mensonges par mes lèvres. Il n'y a pas de place pour eux à l'intérieur, vous voyez ?
Il se mit à rire de bon cœur. « Shallan Dava, je n'arrive pas à imaginer quelqu'un d'aussi adorable que vous en train de proférer un seul mensonge. »
« Dans ce cas, par égard pour votre santé mentale, je ne les formulerai que par père. »
Elle sourit.
« Je passe un moment atroce, et cette nourriture est infecte. »
« Vous venez de démontrer la fausseté de tout un corpus de légendes et de mythes entourant la consommation de confiture de baie franche. »«
Parfait, » répondit Shallan. « La confiture ne devrait pas posséder de légendes ni de mythologie. Elle devrait être douce, délicieuse et colorée. »
« Comme les jeunes femmes, j'imagine. »«
Frère Kabzal ?» Elle rougit de nouveau. « Ce n'était absolument pas convenable. »«
Et pourtant, vous souriez. »«
Je ne peux pas m'en empêcher, » dit-elle. « Je suis douce, délicieuse et colorée. »«
Vous avez raison en ce qui concerne la couleur, » dit-il, visiblement amusé de la voir rougir violemment. « Et la douceur. Je ne peux rien dire en revanche de votre saveur. »«
Kabzal !» s'exclama-t-elle, bien qu'elle ne soit pas réellement choquée. Elle avait cru au départ qu'il ne s'intéressait à elle que pour protéger son âme. Mais elle y croyait de moins en moins. Il passait la voir au minimum une fois par semaine.
Il gloussa en constatant sa gêne,
mais ne réussit qu'à la faire rougir encore davantage.
« Arrêtez !»
Elle leva la main devant ses yeux.
« Mon visage doit avoir la même couleur que mes cheveux. Vous ne devriez pas dire ces choses-là. Vous êtes un homme de religion. »
« Mais je reste un homme, Shallan.
Un homme qui m'a affirmé que son intérêt pour moi était purement intellectuel. »«
Oui, intellectuel, » dit-il d'un ton désinvolte. « Il implique beaucoup d'expérience et de recherche sur le terrain en premier lieu. »«
Kabzal !»
Il éclata d'un rire sonore et prit une bouchée de pain.
« Je suis désolée, clarissime Shallan, mais ça vous soutire une telle réaction. »
Elle grommela et baissa la main. Mais elle savait qu'il ne disait ces choses-là, en partie, que parce qu'elle l'encourageait. Elle ne pouvait s'en empêcher. Personne ne lui avait jamais témoigné le genre d'intérêt qu'il lui portait de manière croissante. Elle l'appréciait, appréciait de parler avec lui, de l'écouter. C'était une excellente manière de rompre la monotonie des études. Il n'y avait, bien entendu, aucune perspective d'union. À supposer qu'elle puisse protéger sa famille, on aurait besoin qu'elle fasse un bon mariage politique. Badiner avec un ardent appartenant au roi de Carbrandt ne rendrait service à personne.
« Je vais bientôt devoir commencer à lui laisser entrevoir la vérité, » se dit-elle. « Il faut qu'il sache que ça ne mène nulle part, n'est-ce pas ?»
Il se pencha vers elle.
« Vous êtes vraiment ce que vous paraissez, n'est-ce pas, Shallan ? Compétente, intelligente, charmante ?»
Il sourit. « Sincère. »
« Je ne dirai pas ça, » répondit-elle.
« Si, vous l'êtes. Je le lis en vous. »
« Ce n'est pas que je sois sincère, simplement naïve. J'ai vécu toute mon enfance dans le manoir de ma famille. »
« Vous n'avez pas l'air d'une recluse. Vous êtes tellement à l'aise pour la conversation. »
« J'ai dû le devenir. J'ai passé la majeure partie de mon enfance en ma propre compagnie. Et je déteste les partenaires de conversation ennuyeux. »
Il sourit. Mais une lueur d'inquiétude brillait dans son regard. Ça semble tellement dommage que quelqu'un comme vous ne reçoive pas l'attention adéquate. C'est comme accrocher un splendide tableau tourné contre le mur. Elle s'appuya de nouveau sur sa sage main et termina son pain.
Je ne dirais pas que je manquais d'attention, pas en quantité, en tout cas. Mon père prêtait très attention à moi.
J'ai entendu parler de lui. Un homme sévère, de réputation.
Il est...
Elle devait faire croire qu'il était toujours en vie.
Mon père est un homme de passion et de vertu. Simplement, jamais en même temps.
Shallan, c'est peut-être bien la chose la plus spirituelle que je vous ai entendu dire.
Et peut-être la plus sincère, malheureusement.
Kabzal la regarda dans les yeux, y cherchant quelque chose.
Qui voyait-il?
Vous ne semblez pas beaucoup aimer votre père.
Encore une affirmation exacte. Les baies nous font de l'effet à tous les deux, je vois.
C'est un homme nocif, j'imagine?
Oui, mais jamais envers moi. Je suis trop précieuse. Sa fille idéale est parfaite. Voyez-vous, mon père est précisément le genre d'homme qui accroche un tableau à l'envers. Ainsi, je ne peux pas être souillée par des yeux indignes ou touchée par des doigts indignes.
Quel dommage! Car vous me semblez fort touchable. Elle lui lança un regard noir.
Je vous l'ai dit, arrêtez ces taquineries.
Ce n'en était pas, répondit-il en la regardant de ses yeux d'un bleu profond, des yeux sincères.
Vous m'intriguez, Shallan Davar.
Elle sentit son cœur battre à tout rompre. Curieusement, la panique monta simultanément en elle.
Je ne devrais pas être intrigante.
Pourquoi donc ?
Les énigmes logiques sont intrigantes. Les calculs mathématiques peuvent l'être. Les manœuvres politiques aussi. Mais les femmes, elles ne devraient jamais être autre chose que déconcertantes.
Et si je pense commencer à vous comprendre ?
Dans ce cas, je pars avec un grave désavantage, dit-elle. Car je ne me comprends pas moi-même.
Il sourit.
Nous ne devrions pas parler comme ça, Kabzal. Vous êtes un ardent.
Un homme peut quitter l'ardence, Shallan.
Elle éprouva un choc. Il la regardait droit dans les yeux, sans ciller.
Séduisant, spirituel, la voix douce.
Tout ça pourrait devenir très dangereux très rapidement, songea-t-elle. Jasna pense que vous vous rapprochez de moi parce que vous convoitez son spiricante. lâcha Shallan. Puis elle grimaça.
Idiote. C'est ça, ta réaction quand un homme laisse sous-entendre qu'il pourrait quitter le service du Tout-Puissant pour toi?
La clarissime Jasna est très intelligente, dit Kabzal en se découpant une autre tranche de pain. Shallan cligna des yeux.
Ah? Vous voulez dire qu'elle a raison?
Raison et tort à la fois, répondit Kabzal. Le dévotaire aimerait vraiment beaucoup obtenir ce fabrial. Je comptais finir par vous demander votre aide.
Mais
mes supérieurs ont trouvé que c'était une très mauvaise idée. Il grimaça. Il pense que le roi d'Aletkar est assez versatile pour partir en guerre contre Carbrant à cause de ça. Les spiricantes ne sont pas des lames d'éclat, mais ils peuvent jouer un rôle tout aussi important.
Il secoua la tête et prit une bouchée de pain.
Elokar Colin devrait avoir honte de laisser sa sœur utiliser ce fabrial, surtout à des fins si insignifiantes. Mais si nous le volions, eh bien, les répercussions seraient ressenties à travers tout le Rochar Vorin.
« Ah bon ?»
demanda Shallan, prise de nausée. Il hocha la tête. « La plupart des gens n'y réfléchissent pas. Les rois gouvernent et font la guerre grâce aux éclats, mais leurs armées subsistent grâce aux spiricantes. Avez-vous la moindre idée du genre de voie de ravitaillement que remplacent les spiricantes? Sans eux, la guerre est pratiquement impossible. » Il faudrait des centaines de chariots remplis de nourriture chaque mois.
J'imagine que ça poserait problème.
Elle inspira profondément.
Ils me fascinent, ces spiricantes. Je me suis toujours demandé quel effet ça ferait d'en utiliser un.
Moi aussi.
Donc vous ne l'avez jamais fait?
Il secoua la tête. Il n'y en a pas à Carbrant.
C'est vrai, songea-t-elle. Bien sûr. C'est pour ça que le roi avait besoin que Jasna vienne en aide à sa petite fille. Vous avez déjà entendu quelqu'un parler de leur utilisation?
La franchise de cette déclaration la fit grimacer.
Allait-elle éveiller ses soupçons? Il se contenta de hocher vaguement la tête.
Elle repose sur un secret, Shallan.
Vraiment? Demanda-t-elle, le cœur battant dans la gorge.
Il leva les yeux vers elle d'un air conspirateur. Ce n'est pas si difficile en réalité.
Ce... quoi ?
C'est vrai, dit-il. Je l'ai entendu de la bouche de plusieurs ardents. Il y a tellement d'ombres et de rituels autour des spiricantes. On les entoure de mystères. On ne s'en sert pas là où les gens peuvent nous voir. On se contente d'en enfiler un, d'appuyer la main contre quelque chose et de tapoter une gemme à l'aide d'un doigt. Rien de très compliqué.
Ce n'est pas comme ça que Jasna s'y prend ?
Dit-elle peut-être un peu trop sur la défensive.
Oui,
ça m'intriguait aussi. Mais j'imagine qu'on apprend à mieux les contrôler quand on les utilise assez longtemps. Il secoua la tête. Je n'aime pas le mystère qu'on a développé autour d'eux. Il me rappelle trop le mysticisme de l'ancienne hiérocratie. Nous ferions mieux de ne pas emprunter de nouveau ce chemin-là. Quelle importance si les gens savaient à quel point les spiricantes sont faciles à utiliser. Les principes et les dons du Tout-Puissant sont souvent très simples.
Shallan écouta à peine cette dernière partie. Malheureusement, Kabzal semblait aussi ignorant qu'elle. Et même encore plus. Elle avait essayé la méthode même dont il parlait, en vain. Peut-être les ardents qu'il connaissait mentaient-ils pour protéger le secret.
Quoi qu'il en soit, reprit Kabzal, j'imagine que c'est une digression. Vous m'avez demandé si je comptais voler le spiricante. Et soyez rassurés, je ne vous placerai pas dans cette position. J'ai été idiot d'y penser, et on m'a rapidement interdit d'en faire la tentative. On m'a bel et bien ordonné de veiller sur votre âme et de m'assurer que vous ne soyez pas corrompu par les enseignements de Jasna, et peut-être d'essayer de regagner l'âme de Jasna par la même occasion.
Eh bien, ce dernier point va se révéler difficile. Je ne m'en étais pas aperçu,
ironisa-t-il.
Elle sourit, bien qu'elle ne parvienne pas à décider ce qu'elle ressentait. « J'ai plus ou moins gâché l'instant, non ? Entre nous. »«
Je suis ravie que vous l'ayez fait, » dit-il en s'époustant les mains. « Je me laisse emporter, Shallan. Parfois, je me demande si je suis aussi peu douée pour être un ardent que vous pour être convenable. Je ne veux pas me montrer présomptueux. C'est simplement que votre façon de parler fait bouillonner mon esprit et ma langue se met à dire tout ce qui lui vient. » Et donc ?
Donc nous devrions en rester là, dit Kabzal en se levant. J'ai besoin de temps pour réfléchir.
Shallan se leva elle aussi et tendit sa libre main pour qu'il l'aide. Se lever quand on portait une robe vorine était difficile. Il se trouvait dans une partie des jardins où le schiste écorce était moins haut, si bien que Shallan, une fois debout, vit le roi lui-même passer non loin de là, bavardant avec un ardent d'âge moyen au long visage étroit. Le roi allait souvent se balader dans les jardins lors de sa promenade de midi. Elle lui fit signe, mais l'homme bienveillant ne la vit pas. Il était en grande conversation avec l'ardent. Kabzal se retourna, remarqua le roi, puis se baissa.
« Qu'y a-t-il ? » demanda Shallan.
Le roi surveille soigneusement ses ardents. « Frère Ixil et lui croient que je suis de corvée de classement aujourd'hui. » Elle sourit malgré elle.
« Vous abandonnez votre journée de travail pour venir pique-niquer avec moi ?»«
Oui. »«
Je croyais que vous étiez censé passer du temps avec moi, » dit-elle en croisant les bras. « Pour protéger mon âme. »
C'était le cas, mais quelques ardents s'inquiètent que je ne m'intéresse un peu trop à vous.
Ils ont raison.
Je viendrai vous voir demain, dit-il en regardant par-dessus le sommet du schiste écorce. À supposer que je ne sois pas coincé à faire du classement toute la journée à titre punitif. Il lui sourit. Si je décide de quitter l'ardence, c'est mon choix, et ils ne peuvent me l'interdire, même s'ils peuvent essayer de m'en détourner.
Il s'éloigna alors qu'elle s'apprêtait à lui dire qu'il présumait trop de choses. Elle ne parvint pas à prononcer ces mots. Peut-être était-elle de moins en moins sûre de ce qu'elle voulait au juste. N'aurait-elle pas dû se concentrer sur l'aide qu'elle devait apporter à sa famille?
Jasna devait probablement déjà avoir découvert que son spiricante ne fonctionnait pas,
mais ne voyait aucun avantage à le révéler. Shallan ferait mieux de partir. Elle pouvait aller voir Jasna et utiliser l'affreuse expérience de la ruelle comme prétexte. Et pourtant, elle hésitait terriblement.
Kabzal était l'une des raisons, mais pas la principale.
En réalité, malgré ses plaintes occasionnelles, elle adorait étudier pour devenir érudite. Même après la formation philosophique de Jasna, même après les jours passés à lire livre après livre, Shallan se sentait souvent comblée d'une façon qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Oui, Jasna avait eu tort de tuer ces hommes, mais Shallan voulait en savoir assez sur la philosophie pour pouvoir citer les raisons exactes qui expliquaient pourquoi. Oui, fouiller parmi les ouvrages historiques pouvait se révéler fastidieux, mais Shallan appréciait les compétences et la patience qu'elle apprenait. Elle lui servirait certainement à l'avenir, quand elle aurait l'occasion de faire ses propres recherches en profondeur. Des jours passés à apprendre, des déjeuners passés à rire avec Kabzal, des soirées à discuter et à débattre avec Jasna. Voilà ce qu'elle voulait. Et c'était là les parties de sa vie qui étaient de parfaits mensonges. Troublée, elle prit le panier de pain et de confiture, puis se dirigea vers le conclave et la suite de Jasna. Une enveloppe qui lui était adressée se trouvait parmi le courrier en attente. Shallan fronça les sourcils et rompit le cachet pour regarder à l'intérieur. « Demoiselle, disait la lettre, nous avons eu votre message. Le plaisir du vent sera bientôt de retour au port de Carbrandt. Bien entendu, nous vous accepterons à bord et vous ramènerons jusqu'à votre propriété. Ce serait un plaisir pour moi de vous accueillir. Nous sommes des hommes de Davar, nous autres. Nous avons une dette envers votre famille. Nous faisons actuellement un bref voyage vers le continent, mais nous nous empresserons ensuite de regagner Carbrandt. Attendez-vous à ce que nous venions vous chercher dans une semaine. Capitaine Tosbeck. » L'infratexte rédigé par l'épouse de Tosbeck était encore plus clair. « Nous serions ravis de vous accueillir gratuitement à notre bord, clarissime, si vous acceptez de jouer les scribes pour nous lors du voyage. Les livres de comptes ont terriblement besoin d'être réécrits. » Shallan regarda fixement le mot un long moment. Elle avait voulu savoir où il se trouvait et quand il comptait revenir. Mais ils avaient apparemment compris sa lettre comme une demande pour qu'il vienne la chercher. Ça semblait un délai adéquat. Son départ surviendrait 3 semaines après le vol du Spiricante, comme elle avait dit à Nan Balad de s'y attendre. Si Jasna n'avait pas réagi à l'échange de Spiricante d'ici là, Shallan devrait en déduire qu'elle ne la soupçonnait pas.
une semaine. Elle montrait bien à bord de ce bateau. Ça la déchirait de s'en rendre compte. Mais il fallait que ce soit fait. Elle reposa le papier et quitta l'aile des invités. Et ses pas la conduisirent vers les couloirs sinueux menant aux voiles. Peu de temps après, elle se tenait devant l'alcôve de Jasna. La princesse était assise à son bureau, griffonnant dans son carnet à l'aide d'un roseau. Elle leva les yeux. « Je croyais vous avoir dit que vous pouviez faire ce que vous vouliez aujourd'hui. » « En effet, » répondit Shallan, « et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était étudier. » Jasna eut un sourire narquois, presque suffisant. Si seulement elle savait. « Eh bien, je ne vais pas vous gronder pour ça, » répliqua Jasna en retournant à ses recherches. Shallan s'assit et proposa pain et confiture à Jasna, qui secoua la tête et poursuivit ses recherches. Shallan se coupa une autre tranche qu'elle recouvrit de confiture. Puis elle ouvrit un livre et soupira de satisfaction. Dans une semaine, elle devrait partir. Mais en attendant, elle allait s'obliger à faire semblant un peu plus longtemps.